J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme, ou plutôt l'histoire d'une fatigue. C'est une femme qui aime prendre soin. Elle en a même fait son métier. Et c'est un métier qui longtemps l'a rendue heureuse. La détresse des autres était son quotidien, la souffrance des autres, leur angoisse, leurs symptômes. C'était son quotidien, mais elle s'en sortait bien. Savait garder la bonne distance, et le soir venu, même quand avec ses patients elle avait traversé la nuit, elle savait trouver la légèreté, rire et s'amuser. Même quand, quasiment tous les jours de la semaine, elle avait été confrontée au pire de ce que la vie fait aux hommes, elle savait encore, le week-end venu, contempler la beauté, s'émerveiller d'un paysage ou d'un tableau, ou simplement se réunir avec ses vieux potes dans un bon resto. Elle n'aurait pu vivre sans se dévouer comme elle le faisait à un métier de soin. Convaincue, comme le neuroscientifique Panksepp, que prendre soin des autres fait partie des besoins principaux de l'être humain. Mais la vie lui offrait aussi de prendre soin d'elle-même. Et c'est probablement pourquoi elle prenait si bien soin des autres. Mais voilà, c'était avant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est venu d'un coup ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ? Est-ce le suicide de ce patient qu'elle suivait depuis longtemps ? Est-ce un phénomène d'accumulation ? Une surcharge émotionnelle ? Est-ce la surcharge logistique qui s'est ajoutée à la surcharge émotionnelle ? Mais voilà, maintenant, elle n'en peut plus. La souffrance des autres, c'est trop maintenant, c'est trop pour elle. Elle devient irascible, insensible certains jours à la souffrance de ses patients, insensible ou alors évidemment trop sensible, et donc contrainte de se murer dans cette pseudo-insensibilité. Parfois même, tout simplement, elle n'arrive plus à écouter. Elle a peur que ce soit trop violent. Elle était dévouée, inspirée, éveillée, tout à sa vocation de psychothérapeute. Maintenant, elle est juste fatiguée. Elle ressemble à ses patients, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Elle ne leur prend pas leur mal, elle ne leur prend pas leur douleur, elle est juste une aidante qui ne parvient plus à aider et remet tout en question. Son métier, son talent, sa vocation, sa compétence, peut-être même l'existence de Dieu. C'est l'histoire de sa fatigue de compassion, qui ressemble à celle de tant de travailleurs sociaux ou d'infirmières, d'infirmiers, d'urgentistes, d'accompagnants. Pourquoi sont-ils si nombreux, les aidants de tout type, à n'en plus pouvoir ? Sont-ils trop empathiques ? Est-ce notre société individualiste qui n'est pas faite pour eux ou ne les valorise pas assez ? Pour en parler ce matin, j'ai la joie et surtout le privilège de recevoir Pascal Brion, star de la psychothérapie au Québec, mais aussi dans le monde entier, qui dispense conférences et formations, notamment sur cette souffrance de compassion dont elle est devenue une des spécialistes, sur cette détresse professionnelle de celles et de ceux qui prennent soin. Pascal Brion, donc, auteur notamment d'un livre important aux éditions de l'Homme, « Entretenir ma vitalité des dents ». Pascal Brion, qui nous a rejoint ce matin sous le soleil de Platon, merci beaucoup Pascal, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette belle question dont nous allons voir qu'évidemment, elle ne concerne pas que les aidants. Comment prendre soin de ceux qui prennent soin ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Pascal Brion.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir. Ça fait 3 ans que j'essaye de vous attraper quand vous êtes à Paris, ce qui arrive pourtant souvent.
Oui.
Donc voilà, vous êtes psychothérapeute, professeur à la fac, directrice d'un laboratoire de recherche universitaire sur trauma et résilience. Vous avez écrit notamment des livres sur la question de mon édito. Mais vous êtes plus généralement spécialiste des stress post-traumatiques et des modalités très particulièrement douloureuses de deuil. Et donc, j'avais envie de parler avec vous de ça, parce qu'il me semble que non seulement c'est un peu votre sujet, mais c'est aussi un sujet de société. Mm-hmm. Au fond, pourquoi les gens qui sont généreux de par leur métier, qui ont l'empathie dans leur code de déontologie, pourquoi souffrent-ils autant ?
Bien, on espère qu'ils ne souffrent pas autant. En fait, on espère que justement ce métier les nourrisse, puisse les exalter, puisse donner un sens aussi quelquefois à leur existence. Mais évidemment, quand on est soignant, de tout type de soignant, il peut arriver à un moment donné où c'est trop. Un moment donné aussi où on glisse de l'empathie à la sympathie.
Ah oui. Et expliquez-nous ça.
Alors évidemment, cette posture qui fait en sorte qu'on résonne beaucoup plus à la détresse d'autrui, qu'on peut ressentir dans notre chair ce qui se passe pour l'autre, où on a l'impression aussi d'être complètement en résonance avec les traumatismes ou les deuils particulièrement difficiles vécus par notre patientèle. Eh bien, cette douleur, cette détresse peut se transformer en deux syndromes qu'on étudie de plus en plus dans la littérature scientifique, en fait, la fatigue de compassion ou le trauma vicariant.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre les deux ? Mais avant cela, vous avez posé une distinction passionnante philosophiquement entre empathie et sympathie. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait dire que la sympathie, c'est quand on est trop empathique ou alors peut-être empathique d'une manière finalement contre-productive ?
Bien, en fait, évidemment, dans les facultés de psychologie, de psychiatrie, même de médecine maintenant, on fait une énorme différence entre l'empathie et la sympathie. Alors, l'empathie, c'est la capacité à se plonger dans le monde de l'autre, à identifier son unicité, son individualité et à revenir dans notre univers pour pouvoir bien refléter ce qui se passe pour l'autre, mais tout en sentant que nos frontières sont tout à fait distinctes. Ouais. Alors que dans la sympathie, on a non seulement plongé dans cet univers, mais on est en résonance, on s'identifie à l'autre. Et dans plusieurs circonstances, oui, l'ego est aussi impliqué. Donc, on se sent particulièrement concerné parce que l'autre vit. On a l'impression que s'il n'avance pas au même rythme qu'on voudrait, c'est parce qu'on n'est pas un bon psychologue, thérapeute, médecin, aidant. Et donc, évidemment, l'ego étant menacé, on est beaucoup plus exaspéré, beaucoup plus touché par la douleur d'autrui.
C'est très intéressant. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, ou alors le Socrate.
Oui.
Finalement, quand on comprend que dans l'empathie, il y aurait la juste distance,
voilà,
au fond.
Mais qui permet d'ailleurs de maintenir sa vitalité.
Oui, et surtout de tenir sur le long terme. Ce que vous avez dit dans beaucoup de conférences que j'ai écoutées, dans vos livres aussi, c'est que l'enjeu de votre métier, c'est aussi de durer.
Voilà.
Non, c'est marrant, c'est pareil pour les artistes, d'ailleurs, les écrivains.
On espère que c'est aussi le cas pour tous les êtres humains,
ouais,
quand
c'est
même.
C'est ça, de durer en maintenant son plaisir aussi et sa joie.
Tout à fait.
Et ça, c'est un bel enjeu. Mais j'aime faire l'avocat du diable quand même. Est-ce que parfois, ce que vous appelez sympathie, quand on s'identifie trop, ça peut pas quand même marcher de façon presque un peu magique? Est-ce que parfois ça n'a pas aussi du bon?
Bien, en fait, la sympathie, c'est l'aide qu'on peut recevoir des amis, de la famille, des proches. Et c'est un peu pour ça, justement, qu'on va avoir des professionnels qui peuvent, eux, être en empathie. Et évidemment, la littérature scientifique montre que cette posture est beaucoup plus efficace pour le traitement thérapeutique que la sympathie qu'on peut recevoir
D'accord.
de ses proches.
Ah, je comprends. Il y aurait quelque chose aussi de professionnel, au fond, dans cette empathie et dans cette juste
de
distance.
De professionnel, de cette saine distance qui permet d'aider l'autre avec cette distance, ce regard qui est beaucoup plus bien aidant, justement, un peu plus objectif peut-être, et qui permet donc des avancées thérapeutiques plus importantes.
Alors, on pourrait dire que l'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, tout en sachant quelle est sa place, et sans confusion.
Tout en maintenant sa saine distance, et en ne tombant pas à la troisième posture, qui est la distanciation.
Ah oui, bien sûr.
Alors, la distanciation, c'est cette distance qui fait en sorte que, bien, on est tellement détaché, tellement déconnecté, qu'on peut dire des choses comme, bien, écoutez, vous savez quoi faire, peux vous référer à quelqu'un d'autre si vous avez besoin. On est complètement détaché, et c'est quelquefois une distance qui est justement adoptée par les soignants qui n'en peuvent plus, et qui peuvent souffrir de fatigue, de compassion, ou de trauma vicaire.
Alors, justement, venons-en à cette distinction. Il me semble que la fatigue de compassion, c'est une situation d'épuisement, alors que le trauma vicariant, c'est que plus précisément, on se met à voir les symptômes de ces patients. Par exemple, si on a une patiente qui a été violée, eh bien, et que nous, en tant que thérapeute, c'est pas notre cas, on va avoir peur de certaines situations avec des hommes, comme si ça nous était arrivé, c'est ça ?
Ah bien, vous avez vraiment bien saisi quand même.
J'ai travaillé.
On le sent. Mais j'apprécie. Mais je pourrais peut-être rajouter à tout ça que la fatigue de compassion est très teintée par un sentiment de lassitude, d'impuissance acquise, de désillusionnement par rapport à la société, par rapport à ses patients. Alors que dans le trauma vicariant, c'est davantage teinté par l'anxiété et le stress post-traumatique par procuration.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on va réagir à des situations parce que nos patients nous ont décrit en détail l'inceste ou l'agression sexuelle ou le génocide qu'ils ont vécu eux-mêmes. Et donc, on va commencer à développer des symptômes d'évitement ou même de flashback pour un trauma qui
c'est
ne
dingue.
Nous appartient pas.
C'est fou. Et alors vous, permettez-moi cette question un peu indiscrète, mais souvent les thérapeutes deviennent thérapeutes parce qu'ils ont rencontré dans leur chemin quelque chose qui les a touchés et qui résonne. Et donc vous, comme vous êtes spécialiste du stress post-traumatique, vous avez notamment écrit « Se relever après un trauma ». Et d'ailleurs, c'est un livre qui a été réédité une dizaine de fois, qui est un best-seller, qui a été réédité encore cet été, je crois, aux éditions de l'Homme, c'est ça ?
Tout à fait.
Mais donc du coup, si vous êtes spécialiste du stress post-traumatique et que vous avez développé ce concept de trauma vicariant, c'est-à-dire quand le thérapeute développe les mêmes symptômes que le patient, c'est que ça vous est arrivé, à vous ?
Bien, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que, oui, bon, ma famille a vécu une perte tragique. Il y a eu, d'ailleurs, je l'ai écrit dans mon quatrième livre qui s'appelle « Quand la mort est traumatique », pour accompagner des endeuillées qui avaient vécu des morts tragiques, donc par suicide, par accident, par homicide d'ailleurs. Et donc, dans la famille, nous avons un grand-papa qui est disparu en mer parce qu'il était ingénieur pour les grands barrages québécois, justement. Et ça a teinté quand même, au-delà des générations, c'est de cette espèce de tragédie qui marque une pierre blanche dans l'histoire de la famille. Mais je vous dirais que pour ce dernier livre qui parle directement aux soignants, j'ai été en fait très, très touchée par des psychologues, des psychiatres, des médecins qui venaient me voir en consultation en disant, écoutez Pascal, j'ai adoré ce métier, ça a été ma vocation et maintenant j'ai l'impression que ce métier me tue. Et j'ai été très touchée par ce deuil professionnel, mais aussi parce que j'avais l'impression qu'en tant que citoyen, nous n'avions pas le luxe de perdre ces gens valeureux, experts, qui songeaient à quitter ce métier.
Eh bien justement, écoutez, cet homme, on dirait un de vos patients.
Je suis fatigué, Esther. J'ai plus l'appétit, j'ai plus le désir. Mes patients, j'ai l'impression de plus avoir la patience avec eux. Je crois que j'arrive plus à les supporter. S'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Je m'en veux parce que je finis par les trouver tous prévisibles. Il y a cette jeune femme chirurgienne là, qui fait un transfert amoureux sur moi, assez carabiné, je dois dire. Et puis il y a ce flic. Le pauvre, il est rentré au Bataclan. Alors, pour le coup, les assassins, il les a vus de très près. Il a des symptômes post-traumatiques évidents, il veut rien savoir. J'ai envie de les prendre, là, de les secouer, de leur dire, mais ben, réveillez-vous, tu vois. Esther, te méprends pas. Tu sais que je suis un praticien consciencieux. Je fais le travail. Je sais comment venir à leur secours. J'ai du métier, comme on dit. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'usure. C'est humain, non? J'ai besoin qu'on me rappelle de temps en temps que ce que je fais a un sens et que je le fais bien.
Alors, Pascal Brion, vous avez probablement reconnu la série En Thérapie, magnifique série qui a d'ailleurs remporté beaucoup de succès. Ça a fait du bien à la figure du psychothérapeute en France, d'ailleurs. Et il dit à sa superviseuse, donc, le problème, c'est l'usure.
Oui, parce qu'on utilise aussi ce terme d'usure compassionnelle ou d'usure de compassion. Et effectivement, on entend non seulement cette usure, hein, cette impression que c'est répétitif, cette impression qu'on est exaspéré, cette impression que nos frontières sont maintenant devenues poreuses, mais aussi cette impression de ne plus trouver de sens.
Oui.
Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les soignants qui viennent nous voir, qui disent, ben, j'ai choisi ce métier par vocation, j'ai choisi ce métier parce que où je voulais être aimée, où je voulais donner un sens à quelque chose, m'expliquer quelque chose. Et maintenant, je suis aussi très honteux de mes propres réactions. Ils vont nous dire des choses comme je suis maintenant distrait quand j'écoute certains patients ou je me sens exaspérée quand j'entendais cet extrait qui disait j'ai envie de le secouer. Puis quand dans nos bureaux, ils vont pouvoir le dire avec honte, hein, où est passée ma patience, où est passée mon empathie pour mes patients. Je me vois avec dureté dans mes propres réactions d'exaspération ou d'ennui.
Et c'est dingue parce que finalement c'est un problème de société parce qu'on a besoin de tous ces aidants, tous ces médecins, tous ces infirmiers, ces infirmières, ces psys, ces urgences. Ces médecins humanitaires, et en fait, ils souffrent beaucoup. Mais ce qui est dingue, c'est
heureusement pas tous. Hein,
oui, j'ai bien compris votre bémol depuis le début.
Voilà.
Mais ce que je veux dire, c'est que du point de vue sociétal, c'est quand même incroyablement problématique. Parce que d'un côté, on a des individus égoïstes, et de l'autre côté, on a ceux qui essayent de prendre soin des autres, et qui parfois le payent. Et donc, c'est un peu la double peine, parce qu'ils voudraient un métier qui a du sens, à la différence des autres qui sont simplement individualistes. Mais du coup, le payant, ils ont l'impression que ce sens leur échappe, et que finalement, quelque part, plus rien n'a de sens. Et c'est ça que vous appelez la fatigue compassionnelle. Mais d'ailleurs, ça peut aussi concerner un parent dans son rapport à son enfant. Et c'est peut-être pas simplement quelque chose que les aidants connaissent. Le fait de, finalement, ne plus prendre assez soin de soi pour savoir prendre soin des autres.
En fait, j'ai appelé ce livre, même si ici, en France, il a une dimension un peu différente que celle au Québec, j'ai décidé de l'appeler justement « Entretenir ma vitalité d'aidant » et non pas « Entretenir ma vitalité de soignant » parce que je recevais aussi des travailleurs humanitaires qui ne se considéraient pas comme des soignants. Et je voulais donc utiliser ce terme pour désigner toutes les personnes qui prennent soin. Et donc, quand vous parlez de ce parent, par exemple, qui prend soin des enfants, bien, on va justement les prévenir, surtout les parents qui sont dans des situations difficiles à l'hôpital, avec des enfants cancéreux, leur annoncer que accompagner ces enfants dépasse le stade normal parental et que ça se place dans la durée comme un marathon
particulièrement intense. C'est un marathon.
Voilà, particulièrement important d'aide et donc que la fatigue de compassion est possible.
Et d'ailleurs, c'est aussi possible pour des adultes qui s'occupent de leurs parents en fin de vie. Et donc, on a besoin de vos conseils. Alors, venons-en maintenant à la réponse alors. Comment entretenir sa vitalité des dents ? Pascal Brion, nous vous écoutons.
Ah bien, écoutez, nous avons combien d'heures ensemble, Charles ? Racontez-moi tout.
Déjà, c'est rare, on a une heure entière, vous avez remarqué, sans chronique, sans interruption, on est tranquille. Mais il ne reste plus que 45 minutes.
Bon, alors écoutez, avant quand même, j'aimerais dire quelque chose de fascinant par rapport à votre dernière question sur les aidants. Alors, comme je vous le disais, j'ai utilisé ce terme pour désigner tous les soignants, mais aussi les travailleurs humanitaires. Ouais. Et vous savez, ce qui est fascinant quand même maintenant au Québec, c'est que j'ai été rejoint depuis quelques années maintenant, parce que bon, cette formation que je donne sur le trauma vicariant et la fatigue de compassion est accréditée par l'Ordre des psychologues du Québec et l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec. Mais j'ai été aussi rejointe par des professions qui, au départ, ne m'avaient pas tout de suite adressé des besoins, en fait, par le conseil de la magistrature. Ah oui. C'est-à-dire les avocats de la couronne ou les procureurs, les juges, les magistrats qui me disaient, bien écoutez, nous, on a beaucoup moins de formation que les personnes en psychologie pour comprendre la fatigue de compassion et le trauma vicariant. Oui. Or, dans ma salle de cours, je vois quelquefois des détails scabreux de scènes d'homicide, j'entends des coronaires et je ne sais pas comment maintenir ma sérénité du juge. Ben oui. J'ai trouvé ça très, très intéressant de voir que ça peut toucher davantage de professionnels que prévu.
Et ça me touche beaucoup, moi, pour une raison personnelle bizarre, c'est que mon père était expert en toxicologie.
Ah oui.
Auprès des tribunaux, et il voyait des choses sordides toute la journée. Il arrivait sur des scènes pour faire des prélèvements. Et donc, je comprends très bien ce que vous dites. Mais alors, venons-en à vos propositions. Oui. Elles sont très belles. Vous parlez d'auto-soin, vous parlez évidemment du besoin de supervision, de savoir retrouver de la légèreté. Vous parlez aussi du besoin de beauté.
Oui, tout à fait. Alors, évidemment, on a plusieurs stratégies tout à fait précises qu'on va utiliser dans le traitement des soignants, un traitement psychologique des soignants. On va commencer par leur proposer de mieux se connaître, c'est-à-dire de connaître leur zone de fragilité, quels sont les patients avec lesquels ils réagissent plus fortement, quelles sont les situations qui peuvent évoquer des symptômes de trauma vicariant ou de fatigue de compassion. Donc,
je précise pour les auditeurs qui nous prennent en route, hein, trauma vicariant, c'est quand quelqu'un qui aide les autres se met à endosser les symptômes de l'autre et à souffrir de la même chose.
Tout à fait. Voilà, et qui va même avoir des symptômes post-traumatiques par procuration.
Oui, c'est dingue.
Voilà, tout à fait. Donc d'abord, on va évidemment identifier avec eux les zones de fragilité, quels sont les événements vécus dans leur passé qui peuvent faire en sorte qu'ils soient particulièrement sensibles à tel suicide d'un patient, tel divorce d'un autre, telle réaction douloureuse lors d'un accident, par exemple, ou d'une situation vécue à titre de policier, par exemple. Ouais. Donc, c'est évidemment la première stratégie.
Et la connaissance de soi. Donc.
La connaissance de soi.
Et d'ailleurs, je vous interromps parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que parfois, ces êtres sont tellement tournés vers les autres, au fond, qu'ils en oublient peut-être de s'intéresser vraiment à eux, à leur fragilité, à leur vulnérabilité. Et quelque part, ils sont trop tournés vers les autres d'une certaine manière.
Et de connaître leurs besoins, qu'est-ce qui leur fait du bien, quels sont les clients qui les font réagir de façon plus importante.
Les patients, c'est vrai qu'en France, on a du mal à appeler les patients les clients. Donc
ah oui, d'accord. Et puis aussi leur motivation pour ce métier. Est-ce qu'ils ont choisi ce métier par désir de mieux comprendre? Certains vont nous dire, bien, Pascal, ce métier, vous devez aimer cette dimension, Charles. Hein, connais-toi toi-même, c'est quand même quelque chose d'important. Mais en fait, donc, est-ce que j'ai choisi ce métier parce que j'aime être aimé? Est-ce que j'ai choisi ce métier parce que je veux devenir le soignant que j'aurais mérité avoir alors que je vivais cette situation si difficile quand j'étais petit? Est-ce que j'ai décidé d'être soignant parce que je veux avoir un impact important sur les autres? Et évidemment, dépendamment de ces motivations, bien, la patientèle va réagir et résonner en nous de façon très, très différente. Hein. Si j'ai choisi ce métier parce que j'aime être aimée, eh bien, je vais réagir plus fortement à des gens bien qui sûr. Me dénigrent, qui me méprisent. Si j'ai choisi ce métier parce que j'ai envie d'avoir un impact, je vais réagir plus difficilement à des patients qui me font sentir que bien tout ce que je dis est inutile et que en aucun cas ils ne vont s'améliorer ou diminuer leurs symptômes.
Ouais, ça c'est la connaissance. On imagine aussi qu'il y a peut-être certains aidants ou soignants qui se sentent trop invulnérables et ont une image de rock et pensent que être un bon soignant c'est être un rock comme invulnérable et que peut-être il faut aussi analyser ça.
En fait, c'est ce que je vois peut-être culturellement entre le Québec et la France actuellement, c'est-à-dire que c'est très on voit ça avec beaucoup d'humilité. Chez nous, on a de moins en moins de difficultés à dire qu'on est en fatigue de compassion ou en trauma vicariant. On n'a pas l'impression que ça touche notre compétence. Alors qu'en France, je sens qu'il y a encore une très grande résistance, comme si d'avouer que ça peut être fatigant ou usant, mais les thérapeutes ont peur qu'ils se font dire ben, tu n'es pas à la bonne place.
Tu n'es pas compétent.
Ben oui, pourquoi tu as choisi ce métier? Finalement, tu n'as pas ce qu'il faut pour que tu puisses le faire.
C'est dingue. Hein. Ouais. C'est marrant parce qu'on retrouve dans ce champ du soin, ce qu'on retrouve beaucoup en France, dans les entreprises, même à l'école, hein, c'est une difficulté du français à accepter au fond sa vulnérabilité. On va écouter quelqu'un qui sait très bien nous soigner, Freddie Mercury. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Voilà, c'était Queen, cette voix de dingue, Freddie Mercury, Don't Stop Me Now.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Eh bien, nous sommes toujours avec Freddie Mercury, donc, mais aussi Pascal Brion, une star de la psychologie au Québec. Ça fait 3-4 ans que j'essaye de vous avoir sous le soleil de Platon. Je précise que parmi tous les livres que vous avez écrits, qui sont quasiment tous des best-sellers en France, mais aussi bien sûr au Québec, eh bien, il y a « Se relever d'un traumatisme », qui est d'ailleurs réédité cet été. Et puis, le livre qui concerne davantage le sujet de notre émission aujourd'hui, « Entretenir ma vitalité des dents ». Et précisément, on en est à ce moment-là de l'émission où on se demande comment faire pour pouvoir tenir longtemps, finalement, pour qu'on ait une bonne empathie qui aide l'autre, sans qu'on soit comme dévoré, comme épuisé par cette empathie excessive qui deviendrait alors ce que vous avez appelé de la sympathie. Et puis, vous parlez beaucoup de beauté. Bah, ça tombe bien, parce qu'après Queen, on est dans le sujet.
Mais oui, alors, vous avez un petit ressort dans le mollet, là, maintenant, que vous avez écouté Queen. Là,
ouais, vous m'avez, je suis grillé, vous m'avez vu frétiller.
Ah oui, c'est ce que je pensais. Oui.
Alors comment c'est important de voilà juste de contempler les paysages, écouter de la musique, c'est pas anecdotique quoi.
Bien, juste avant ce bel extrait, on avait parlé de la première stratégie pour prendre soin de soi et qu'on utilise justement dans la psychothérapie des soignants, qui est de bien se connaître soi. Mais évidemment, on a toutes sortes, on a des stratégies plus pointues. Donc, et une de celles-ci, c'est de pouvoir identifier ses auto-soins. Alors, les auto-soins sont des stratégies de vitalisation, d'auto-vitalisation que nous allons intégrer dans notre vie pour maintenir justement notre capacité d'empathie. Et une de celles-ci, c'est de pouvoir s'exposer à la beauté et à la grandeur humaine. Parce que, bien, dans notre métier, on peut être confronté régulièrement à la petitesse et la laideur humaine. Pas nécessairement avec notre contact avec nos patients, bien sûr, mais avec ce qui est arrivé à nos patients.
Bien sûr, le mal trauma. Aussi, la violence du mal.
Le mal, la violence, la laideur, la petitesse. Et donc, pour éviter justement cet épuisement, bien, une des stratégies, c'est de s'exposer à la grandeur, à la beauté humaine. Et donc, ça n'arrivera pas tout naturellement dans notre vie. Hein. Quelquefois, il faut forcer cet élément, justement, dans notre agenda, où je peux trouver cette beauté, où je peux voir ce que l'être humain est capable de faire de plus beau et de plus grand.
Et bien, justement, à cette question de où trouver la beauté, je vous propose d'écouter Catherine Meurice.
Très bien.
Dans les jardins de la Villa Médicis, il y a un groupe de statues qui s'appelle les Niobides. C'est des statues comme ça qui représentent des enfants qui ont été massacrés par Apollon et Artémis. Alors forcément, bah, je m'y attendais pas du tout. Je pensais faire une visite plutôt pleine de beauté. Et en fait, oui, je me suis retrouvée à Charlie, dans la salle de rédaction où je n'étais pas. Pourtant, le 7 janvier, je me suis retrouvée au Bataclan. Enfin, j'ai pris la violence en pleine figure, en fait, et toutes mes déambulations dans Rome ont été comme ça jalonnées de rencontres, de face à face avec la beauté, avec les arts qui me renvoyaient la violence du monde, mais une violence sublimée, bien sûr, ce qui m'a permis de m'extraire de cette violence réelle et d'aller vers un apaisement. Voilà.
Pascal Brion, c'est un peu ce que vous dites. On a besoin de beauté, mais pas d'une beauté dans l'évitement de l'agressivité ou du mal, mais presque une beauté qui sublime cette violence à laquelle on est confronté.
Oui, en fait, les deux. Je vous dirais qu'on a besoin de cette beauté qui réconcilie, qui réconforte, de pouvoir s'exposer à quelque chose d'harmonieux, de magnifique, et de dire, mon Dieu, l'être humain est capable de cette beauté. Mais d'être en contact avec la toile de Guernica, par exemple, de Picasso, et de voir cette douleur, cette horreur, peut aussi nous aider à transcender l'horreur vécue auprès des réfugiés d'Ukraine, par exemple, ou de la bande de Gaza, et de se dire, bien, il y a quelque chose qui a été transcendé par cet artiste qui vient aussi me réconcilier avec cette part de l'homme, de l'être humain, qui est indissociable de cette grandeur, c'est-à-dire cette capacité de violence aussi absolue. Alors, cette transformation par l'art va non seulement nous exposer à quelque chose de réconfortant et de réparateur, mais aussi nous aider aussi à digérer ou à assimiler, à transcender cette violence avec laquelle on est confronté tous les jours.
Pascal Brion, vous pensez que la beauté peut nous guérir?
Oui, moi je suis une très grande épicurienne et une des choses que je veux justement encourager chez les soignants, c'est qu'ils puissent intégrer dans leur quotidien justement cette exposition au chef-d'œuvre, hein, à ces hommes, ces femmes qui ont pu nous exposer à cette beauté et puis à nous aider à continuer à travailler avec l'être humain, avec toutes ses facettes finalement, ses plus ou moins nobles facettes. Et donc, je pense qu'elles ont des pouvoirs de guérison et d'élévation de l'âme importante.
Ce qui est très intéressant quand on regarde vos deux premières propositions, hein, sur comment maintenir sa vitalité des dents, mais ça concerne aussi des gens dont c'est pas le métier, qui veulent pendant longtemps s'occuper d'un enfant, pendant longtemps s'occuper d'un parent qui vieillit, c'est que d'un côté, la connaissance de soi, c'est un retour à soi, mais de l'autre, l'émerveillement, c'est peut-être sortir de soi pour s'oublier un peu et se ressourcer. Mais évidemment, si on fait un peu de dialectique, on s'aperçoit que ça va ensemble. En fait, pour aller bien, il faut sortir de soi et puis revenir à soi, s'oublier et se retrouver. Et c'est peut-être comme ça, au fond, qu'on prend soin de soi. Et peut-être que c'est la condition pour prendre soin des autres sur la durée.
Oui, et je pense que c'est tout à fait pertinent ce que vous venez de rajouter et intéressant, Charles. Et je rajouterais aussi une dimension d'ouverture. C'est-à-dire que quand on est souffrant en tant que soignant ou en tant qu'aidant, on peut se mettre facilement dans une position de fermeture. Oui. Fermeture envers cette nature humaine qui est souffrante, qui est exigeante, qui nous demande constamment de nous occuper d'elle-même, peut être laide et petite. Et puis, finalement, on commence à être très fermé à tout cela. On s'isole en ayant l'impression que ça nous fait du bien, alors qu'une des stratégies, c'est justement de continuer à être ouvert,
bien sûr,
mais à l'art, justement, à la beauté, à la grandeur, de se laisser encore toucher par certaines dimensions extrêmement belles de ce que l'être humain était capable de faire, parce qu'on sent qu'elles ont des pouvoirs réparateurs et de transcendance.
Alors, pour maintenir cette vitalité des dents, vous parlez de se connaître, connaissance de soi, vous parlez de merveillement, de beauté, mais est-ce que relativiser, c'est intéressant, ou est-ce qu'on ne peut pas le défendre ? Le fait de dire, voilà, même si je suis confronté à la souffrance de quelqu'un, pour cette personne, la souffrance n'est pas relative, mais est-ce que moi, soignant, aidant, je n'ai pas à savoir relativiser ?
Bien, évidemment, il y a d'autres stratégies très pointues psychothérapeutiques qu'on va utiliser. Donc, et une de celles-ci, c'est le travail des cognitions de l'aidant ou du soignant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des moments dans ton travail professionnel auprès de personnes souffrantes où tu as senti que tu as pu ressentir des blessures morales. Alors, on va identifier
alors,
de plus en plus ce
expliquez-nous ce concept
syndrome
de blessure morale, parce que ce n'est pas très clair quand on ne connaît pas. Et je sais que c'est important dans cette logique de l'auto-soin.
Tout à fait. Et c'est important dans ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire dans la relativisation. Donc, la blessure morale est un syndrome qu'on étudie de plus en plus, qui concerne des moments qui ont été vécus dans le contact, dans notre carrière professionnelle, où on avait l'impression qu'on assistait ou même qu'on faisait des choses qui étaient à l'inverse de ce qu'on croyait juste, donc à l'inverse de nos valeurs fondamentales.
Et après, on s'en veut, c'est ça? On s'en veut?
Oui, je pense par exemple à des travailleurs humanitaires qui doivent décider à qui ils vont donner de la nourriture le matin. Je peux penser à ces médecins ou ces psychologues dans des milieux hospitaliers qui disent, bien là, je ne peux le voir que pour tant de séances ou je ne peux le voir que dans 4 heures. Ça va à l'encontre mes valeurs et de la façon dont j'aimerais soigner.
Ou alors c'est un urgentiste qui doit prioriser.
Voilà.
Et sauver une personne plutôt qu'une autre.
Exactement. Et ces intervenants vont nous dire, Pascal, j'ai l'impression que j'ai posé des gestes ou j'ai assisté à des gestes qui ne correspondaient pas à mes valeurs profondes, à ce que je croyais juste et bon. Et je me suis sentie complice de quelque chose dans lequel je ne crois pas.
Je me suis trahi aussi.
Je me suis trahi.
C'est ça, la blessure morale, d'accord.
Ouais. Et même des professionnels vont avoir l'impression de dire, mais je maintiens un système dans lequel je ne crois plus. Et c'est extrêmement douloureux et ça peut être un facteur fragilisant pour le trauma vicariant ou la fatigue de compassion.
Et dans ce cas-là, vous faites quoi?
Bien, on doit identifier les moments de blessure morale. Donc, on va expliquer ce concept aux professionnels, on va leur demander de nous expliquer s'ils ont déjà vécu, assisté ou eux-mêmes pratiquer des stratégies, d'accord, ou des modes de clinique qui sont à l'encontre de leurs valeurs parce qu'ils doivent bien diminuer le nombre de séances, ils doivent donner un temps d'attente d'un an avant de rencontrer un patient, ils doivent faire des statistiques dans le milieu hospitalier plutôt que donner des soins. Et donc, on va identifier ces blessures morales et on va favoriser justement, ça revient à votre question, une un réapprivoisement de ces blessures, faire en sorte que l'écart entre ce que j'aurais voulu faire et ce que j'ai dû faire ou ce à quoi j'ai dû assister, comment est-ce que je peux résoudre cet écart moral en quelquefois me pardonnant,
bien sûr,
en quelquefois relativisant ce qui s'est passé, en diminuant certaines attentes.
Et puis aussi en acceptant que je ne suis pas parfait et que finalement, ce n'est pas parce que j'ai décidé de me consacrer aux autres, de dévouer ma vie aux soins des autres qu'il faut que je sois parfait. Et j'ai droit moi aussi à l'imperfection. Et quelque part, quand mon idéal rencontre le réel, c'est normal qu'il y ait un décalage. Il faut peut-être l'accepter.
Voilà. On favorise cette souplesse, cette flexibilité cognitive qui quelquefois n'existe plus chez le soignant, où il y a une très grande rigidité envers soi, des attentes extrêmes qui favorisent cette dureté envers soi-même. Donc, on va favoriser cette souplesse émotionnelle.
Et d'ailleurs, d'un point de vue plus général, excusez-moi, je fais un petit décrochage, est-ce que cette souplesse, c'est pas le secret d'une vie psychique la plus accomplie possible?
Tout à fait. C'est très associé à la résilience, très associé même à la croissance post-traumatique, qu'on va d'ailleurs favoriser chez nos soignants, c'est-à-dire est-ce que non seulement on souffre de fatigue, de compassion, mais est-ce qu'on peut avoir de la satisfaction de compassion?
Oui.
Et puis, est-ce qu'on peut aussi le pendant de la fatigue de compassion, c'est la satisfaction de compassion,
oui.
Mais le pendant du trauma vicariant, c'est la résilience vicariante. C'est-à-dire, en contact avec des patients, non seulement bien, j'ai de la satisfaction de compassion, mais aussi, je peux apprendre d'eux à être plus résilient. Pascal, en accompagnant ces victimes de génocide, je les ai vues accomplir certains rites, adopter des stratégies auxquelles je n'avais moi-même même pas pensé. Et finalement, j'étais en contact avec des modèles de résilience qui m'ont interpellée et qui m'ont influencée. Et je suis plus résilient maintenant en travaillant avec cette clientèle que si bien, je faisais un autre métier.
Et d'ailleurs, accessoirement, c'est aussi pour ça que j'arrive mieux à les aider, parce que je vis mieux cette relation.
Tout à fait. Et non seulement je vis mieux cette relation, mais j'ai l'impression que je peux moi-même en profiter, moi-même grandir dans ce métier, parce que j'acquiers des stratégies qui, bien, au contact avec autrui, qui est résilient et qui me montre des modèles de croissance post-traumatique.
Mais d'ailleurs, ça veut quand même dire aussi, si on décadre un peu, que finalement, la générosité, on pourrait dire, ou l'empathie, elle n'est pas que tournée vers les autres. Il faut que j'en ai moi-même un bénéfice et que ce n'est pas honteux de le voir comme ça.
Je ne sais pas s'il faut avoir un bénéfice, mais quelquefois, effectivement, les soignants vont me dire, bien, je peux tous les jours sentir que je grandis dans cette relation, que je trouve un meilleur sens, que je suis en contact avec l'authenticité, que j'ai l'impression, Pascal, d'être dans quelque chose qui fait... Je suis tout à fait sur mon X. J'ai l'impression d'être tout
sur
à
mon
fait
axe,
à la
ça,
bonne
oui.
place. Et oui, si on appelle ça des profits, effectivement, c'en est. Et ça peut faire en sorte que ça maintient ma vitalité.
Alors, je précise, Pascal Brion, que vous dirigez le laboratoire de recherche universitaire Trauma et Résilience depuis 2018. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire que finalement on progresse dans ce domaine et que la gestion du stress post-traumatique connaît depuis un certain temps de belles avancées?
Ah oui, tout à fait. Alors moi, j'ai terminé mon... Ça ne me rajeunira pas, mais oui. J'ai terminé mon doctorat en 1999, j'ai été formée aux États-Unis et j'ai donné par la suite, évidemment beaucoup de formations dans les forces armées canadiennes pour pouvoir mieux prendre soin de nos vétérans,
oui.
Dans les réserves autochtones, au Québec. Et puis, j'ai pu voir donc depuis 25 ans cette avancée incroyable dans le traitement du trouble de stress post-traumatique. D'abord, il est beaucoup plus connu que depuis 20 ans, il y a 20 ans. Et nous avons développé des stratégies qui font en sorte qu'on est beaucoup plus efficace maintenant pour traiter les victimes
oui.
d'attentats, d'homicides, nous endeuiller même par suicide et par accident qu'autrefois. Et ça, c'est quand même quelque chose de fascinant de voir à quel point la science psychologique va être maintenant au service de la clinique.
Et alors, ça veut dire, par exemple, que on pense autrement à la résilience. Je sais que nous, on a grandi en France avec une idée vulgarisée beaucoup par Boris Cyrulnik,
oui.
comme quoi la résilience, ce serait de prendre un nouveau départ après un drame, après une effraction psychique. Est-ce que peut-être aujourd'hui, on complète pas un peu le tableau en montrant que peut-être quand on est résilient, c'est pas qu'on prend un nouveau départ, mais qu'on fait avec ce passé et que quelque part, on prolonge l'histoire sans être dans cette logique, au fond, de nouveau départ?
Bien, en fait, on va concevoir la résilience de cette façon, bien sûr. On peut rajouter des notions de dire « je suis revenue au même niveau de fonctionnement qu'autrefois. Ouais. J'ai été capable d'intégrer cet événement et de ne plus me battre contre cet événement. Cet événement ne fait plus partie du présent, mais il fait maintenant partie de façon plus harmonieuse du passé. Ouais. Et je suis capable de conceptualiser ma vie en intégrant cet événement au sein de mon histoire longitudinale. » Et donc, on va concevoir la résilience de cette façon. On va concevoir la croissance post-traumatique comme étant non seulement je retrouve le même niveau de fonctionnement qu'autrefois, mais j'ai même appris de cet événement. J'ai même l'impression d'avoir grandi de cet événement. Cet événement m'a permis de m'arrêter pour me dire comment je veux vivre ma vie maintenant. Pascal, depuis cet accident que j'ai vécu, qui m'a profondément traumatisé, mais j'ai décidé de retourner à l'université ou j'ai décidé de revoir mon mode relationnel avec mes proches, ou j'ai fait une réflexion spirituelle qui fait en sorte que maintenant il y a un sens différent. J'ai choisi de changer de carrière. Ce sont tous des exemples de croissance post-traumatique. Oui, donc, non seulement j'ai été résilient, mais j'ai même pu changer positivement ma vie à la lumière de ce qui m'est arrivé.
Et ce qui est beau quand on vous écoute, Pascal Brion, c'est que sur cette question-là, de la résilience, comme sur la question de prendre soin de celles et ceux qui prennent soin, on s'aperçoit que vous avez ce souci du temps long, au fond, et ce souci de l'historicité, et ce souci d'un continuum. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qui nous est tombé dessus? Et peut-être penser davantage l'histoire dans sa globalité, avec cette idée de, quelque part, faire fructifier même ce qui est dur, même ce qui a été un choc, au fond, et de le ressaisir dans l'aventure de notre histoire. C'était La vie à Belle de David Walters.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours, et c'est vraiment passionnant et très émouvant d'ailleurs, avec Pascal Brion, nous parlons d'empathie, de compassion, mais aussi de cette fatigue compassionnelle qui parfois envahit celles et ceux qui ont fait le choix heureux de prendre soin des autres, mais parfois ils sont fatigués parce que c'est trop de violence, c'est trop de charge émotionnelle, parfois c'est trop aussi de charge logistique, bref c'est trop, et le soignant, l'aidant se sent fatigué, mais au fond ça peut arriver à chacun d'entre nous, quand on prend soin de son enfant, de son père, de son ami, ou parfois d'un collaborateur, de pas savoir finalement bien en prendre soin, parce qu'on s'oublie soi-même, et parce qu'on ne prend pas soin de soi-même. Alors est-ce que Pascal Brion, ça fait pas un peu résonner ce qui a été une provocation nietzschéenne, notamment dans l'Antéchrist, Nietzsche dit que à force de trop compatir, en fait, on s'épuise et on n'est plus capable de rien.
Alors ?
Ben, est-ce que Nietzsche est provocateur ? Lui, évidemment, il veut combattre toujours les valeurs chrétiennes, en pensant que la compassion, c'est une valeur chrétienne et qu'il faudrait avoir une sorte de force aristocratique de ne pas compatir pour ne pas être contaminé par la faiblesse de l'autre. C'est évidemment pas ce que je veux défendre, mais souvent chez Nietzsche, il faut l'entendre un peu de différentes manières. Est-ce qu'il ne nous met pas en garde de façon quand même très, très puissante par rapport à l'idée qu'on peut, en fait, quelque part, mal compatir ou trop compatir ? Et quelque part, échouer à véritablement bien prendre soin de l'autre parce qu'on ne maintient pas la saine distance, finalement.
Voilà, tout à fait. Je pense que c'est cette importance de rester dans la bonne posture thérapeutique, dans l'empathie, faire attention à la sympathie, ouais. Faire attention à la distanciation. Et puis, c'est ce que ce n'est pas Nietzsche qui disait aussi, ce qui nous tue pas, nous renforce. Et ouais. Je trouve que ça clôt bien quand même tout cela. C'est-à-dire, on parlait juste avant la pause et ce petit air tout entraînant de résilience, de satisfaction, de compassion chez ouais. les soignants, de résilience vicariante, de croissance post-traumatique. Et donc, ça revient un peu à cette phrase aussi, hein, ce qui ne nous tue pas, nous renforce, ce qui n'est pas faux. Hein. Les études montrent qu'effectivement, des événements d'adversité, d'intensité légère à moyenne peuvent effectivement entraîner un renforcement. Évidemment, quand on est dans des événements d'adversité de très grande force, ce n'est plus vrai. Hein. On est vraiment face à une courbe en U.
Parce que d'une certaine manière, la phrase de Nietzsche devient fausse lorsque la violence de ce que j'ai vécu en fait, me tue pas au sens biologique, mais quelque part me tue, c'est-à-dire casse en moi quelque chose.
Absolument, et c'est pour ça qu'on remarque en fait une courbe en U, c'est-à-dire bien, quand j'ai des événements d'adversité très très légère, je ne vois pas de croissance post-traumatique, mais les événements moyens entraînent une grande croissance post-traumatique, et à partir du moment où on a des événements de très grande intensité, bien là, ça prend un support thérapeutique pour favoriser justement cette résilience et cette croissance post-traumatique.
Pascal Brion, je voudrais vous faire réagir à un extrait d'une chanson de la chanteuse française Camille. Oui. Pour savoir si pour vous, ce qu'elle dit, c'est une manière de penser le métier de soignant. Elle dit, Camille, je veux prendre ta douleur. Est-ce que prendre la douleur du patient, c'est pas justement l'erreur qui fait qu'on se retrouve en fatigue compassionnelle ?
Totalement. Alors, l'objectif, ce n'est pas justement de porter cette douleur, hein. C'est d'accompagner l'autre qui porte la sienne. Et c'est complètement différent, en fait. Hein. J'ai plus l'impression qu'on parle de sympathie ici, justement.
C'est ça. Sympathie, dans votre terme, c'est le problème. C'est quand c'est excessif, quand on a un problème dans la relation, au fond.
Tout à fait. Quand nos frontières sont rendues poreuses, complètement évanescentes, et qu'on a l'impression qu'on a cette charge de responsabilité de soulager l'autre de sa douleur, alors qu'on est beaucoup plus dans un processus de parcours, hein, d'accompagner l'autre, de le guider pour qu'il puisse mieux la porter, mais aussi qu'il puisse l'intégrer dans son historique longitudinal de vie.
Parce que, quand je vous ai entendu tout à l'heure parler de stress post-traumatique par procuration, ça m'a donné envie d'ouvrir un peu notre discussion à l'actualité extrêmement violente qu'on reçoit tous sur des réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas dangereux pour nous aussi, qui ne sommes pas soignants, d'être confrontés à ces images de violence? Et est-ce qu'on peut pas développer, de façon peut-être plus douce, hein, des stress post-traumatiques par procuration? Je sais que vous avez beaucoup abordé cette question du déballage médiatique de cette violence. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça?
Bien, écoutez, un des auto-soins, d'ailleurs, oui. qu'on recommande, hein, qui fait partie des auto-soins cognitifs et émotionnels, parce qu'on a plusieurs catégories d'auto-soins, eh bien, c'est justement de pouvoir se permettre d'avoir des pauses médiatiques.
Bien sûr,
une
ouais.
des caractéristiques des médias actuels par rapport à ce qu'on vivait il y a 50 ans, c'est que les images sont extrêmement percutantes, on peut avoir des chaînes d'information continues qui nous relaient à gogo des scènes d'horreur. Ces chaînes se nourrissent du visionnement des auditeurs parce que les publicités doivent donc être vues. Et donc, ça fait en sorte qu'il faut nourrir la bête et favoriser cette médiatisation à outrance des horreurs. Ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup moins de distance émotionnelle qu'autrefois. Hein. On peut manger le soir à la maison, dîner avec des amis et avoir cette télévision qui est constamment en permanence ouverte, qui donne l'impression que la distance émotionnelle n'existe plus. Et donc, un des auto-soins, c'est aussi de se dire, est-ce que je n'ai pas besoin de fermer et de me retrouver autour de moi et de ne plus être en résonance avec la douleur du monde.
De toute façon, c'est bien de dîner sans la télé. Hein.
Oui, pour plusieurs raisons. Ouais. Pour plusieurs raisons, mais celle-ci aussi, c'est-à-dire de dîner sans la télé, mais de se dire, est-ce que je n'ai pas besoin de 7 jours où je me coupe complètement des médias pour réaliser finalement que beaucoup de mon stress quotidien est aussi relayé par toute cette douleur internationale et que si je regarde ce qui se passe dans mon petit quotidien, mes relations, celles-ci sont beaucoup plus harmonieuses et calmes que je pensais.
Et puis on sait bien, d'après les travaux d'une neuroscientifique Panksepp, que ce qui fait du bien, c'est de s'occuper des autres, de prendre soin. Et on voit bien que dans votre travail, vous montrez que le patient, l'aidant, le soignant, il va réussir à reprendre pied quand il arrive à s'occuper des autres. Donc quand on est bombardé comme ça par l'actualité et qu'on peut rien faire, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est un conseil concret. On pourrait se dire, mais en fait, de qui je pourrais prendre soin aujourd'hui?
Oui, et puis ça peut être aussi, la réponse, ça peut être aussi moi. Je peux m'exposer à de la beauté, je peux utiliser des auto-soins, j'en fais une longue liste dans cet ouvrage, justement, par catégorie.
Oui, je rappelle son titre, hein, « Entretenir sa vitalité des dents ».
Voilà, je prends du temps pour méditer, je prends du temps pour donner un sens, je prends du temps pour m'exposer à quelque chose de plus grand, parce que en faisant ceci, je vais retrouver une certaine vitalité et aussi une capacité d'ouverture à autrui et à moi-même, qui va me permettre de continuer à aider.
Eh bien, écoutez, Pascal Briand, c'était magnifique. On va rester sur cette ouverture. Et je vais essayer pour nos auditeurs, comme je le fais chaque matin, de résumer la philosophie qui a été la vôtre. Alors évidemment, une philosophie du soin, une philosophie de l'empathie et non de la sympathie. Pour ceux qui ont pris l'émission en route, il faut la réécouter pour comprendre. Une philosophie de la juste distance qui fait que pour bien aider l'autre, je dois savoir me mettre à sa place, mais en sachant que ça n'est pas à ma place. Autrement dit, on ne suit pas la chanteuse Camille, on ne prend pas la douleur de l'autre en soi. On sait maintenir cette distance. Ce qui fait que précisément on arrive à aider l'autre. J'aurais envie de dire que savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, arrêter d'être dans une pensée dichotomique, je ne suis pas soit auto-centré, soit dirigé vers les autres, je suis au fond, et c'est le secret de notre échange, dans la relation. Pascal Briand, merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin sous le soleil de Platon. C'était un plaisir partagé. Je rappelle deux de vos livres importants, Se relever d'un traumatisme, réédité récemment aux éditions de l'Homme, et puis évidemment, le sujet de ce matin, Entretenir ma vitalité des dents. On a compris que ça parle à chacun d'entre nous, parce que nous avons envie de nous aider les uns les autres, mais n'oublions pas pour cela de nous aider d'abord nous-mêmes. Merci beaucoup, Pascal Briand. Cette émission a été préparée, et excellemment préparée, merci beaucoup, par Estelle Gap. Elle a été réalisée à la technique par Guillaume Roux, réalisée par Antoine Larcher, et bien sûr à la programmation musicale, merci pour ce morceau dingue de Queen, Valentine Chedebois. Quant à moi, je vous retrouve demain matin, le cœur en joie, à 9h exactement, sous le soleil de Platon.